Il est 7h.
C'est un pari que les Anglais font. Avec une seule dose, on obtient une protection qui est de l'ordre de 50 à 60%. Mais c'est un pari.
Un pari choisi par Boris Johnson au Royaume-Uni. Allonger le délai entre les deux injections de vaccin pour immuniser davantage de personnes. La France ne compte pas s'engager dans cette voie. Alors que le gouvernement est toujours très critiqué pour la lenteur de la vaccination, des décisions seront annoncées dans les jours qui viennent. Tout dépendra des données sanitaires post-vacances. Dans ce journal, le télétravail, ce n'est pas forcément la panacée. De nombreux salariés n'ont qu'une envie, revenir au bureau. Donald Trump demande à changer le résultat de la présidentielle en Géorgie. Et puis, les joueurs du PSG viennent de faire connaissance avec leur nouvel entraîneur, l'Argentin Mauricio Pochettino, parce que c'est comme ça qu'il faut dire Pochettino.
Juste après ce journal, le mariage Fiat PSA, la naissance du quatrième constructeur mondial automobile, un secteur en pleine révolution, c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. Quel sens a encore notre présence dans le Sahel, le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport, Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern, notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le Royaume-Uni devient aujourd'hui le premier au monde à utiliser le vaccin Oxford-AstraZeneca, un produit moins cher et beaucoup plus facile à stocker. Le pays est l'un des plus endeuillés par le Covid. Il veut aller encore plus vite dans sa stratégie de vaccination.
Le Premier ministre Boris Johnson a décidé d'allonger le délai entre la première et la seconde dose du vaccin Pfizer.
From now on, à partir de maintenant, nous donnerons une première dose au maximum de personnes considérées comme vulnérables, puis une seconde dose suivra 12 semaines plus tard. Ça veut dire que nous pouvons vacciner et protéger beaucoup plus de personnes dans les prochaines semaines.
Voilà, Boris Johnson le dit, plus de personnes protégées, mais celles qui reçoivent la première injection devront attendre jusqu'à 3 mois pour la deuxième. À Londres, Anaïs Cordoba.
Cette décision suscite la colère de certains médecins. Ils craignent que ce changement de stratégie érode la confiance des patients dans la campagne de vaccination. Ce n'est pas le cas de David, 80 ans, médecin généraliste à la retraite. Lui et son épouse ont reçu la première dose du vaccin Pfizer la semaine dernière.
Nous sommes déçus, mais je pense que c'est la meilleure décision. Les tests montrent qu'avec une seule dose, nous sommes plutôt bien immunisés. Et maintenant, il y aura donc beaucoup plus de vaccins pour immuniser deux fois plus de personnes. C'est la priorité.
Les laboratoires Pfizer préconisent un intervalle de seulement 21 jours entre les deux doses de leur vaccin, mais rien ne prouve que son efficacité diminue avec un intervalle plus long, répond le comité scientifique de la vaccination qui conseille le gouvernement, le professeur Anthony Harden et son vice-président.
Plus nous injecterons une première dose du vaccin au plus grand nombre de personnes vulnérables, plus nous ferons baisser le nombre de morts et d'hospitalisations. Avec ce virus, nous savons qu'il faut agir rapidement et efficacement.
Grâce à cette nouvelle stratégie, le gouvernement britannique espère vacciner des dizaines de millions de personnes d'ici 3 mois. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Des dizaines de millions de personnes d'ici 3 mois, chiffre qui laisse rêveur ici en France, puisque nous sommes très loin du compte. 516 personnes vaccinées au 1er janvier, selon le ministère de la Santé.
Alors faudrait-il suivre l'exemple britannique ? Sûrement pas, nous dit Jean-Paul Stahl. Il est professeur émérite de maladies infectieuses au CHU de Grenoble.
Les Anglais, ça déborde vraiment de partout. Et donc, ils sont dans une situation d'urgence que nous n'avons pas pour l'instant. C'est un pari que les Anglais font. Avec une seule dose, on obtient une protection qui est de l'ordre de 50 à 60%. Donc, c'est assez notoirement insuffisant pour une protection des individus. Alors maintenant, si on dissémine les doses et si on multiplie ainsi le nombre de vaccinés, ben 50%, ça devient significatif. Mais ça vous laisse quand même tout un champ de possibilités de contamination. C'est un pari qu'on peut tenter, c'est-à-dire un pari qui serait de ralentir l'épidémie et par là même de protéger les gens qui ne sont pas protégés par le vaccin, finalement. Mais c'est un pari.
Éclairage du professeur Jean-Paul Stahl avec Hélène Terzian.
En France, la campagne de vaccination doit s'accélérer. À partir d'aujourd'hui, elle va concerner les soignants de 50 ans et plus. De son côté, le syndicat de médecins généralistes MG France réclame la possibilité pour tous les professionnels de santé libéraux de se faire vacciner rapidement.
Quelles mesures seront annoncées dans les jours et les semaines qui viennent ? C'est encore le flou en attendant les chiffres sanitaires d'après les vacances de Noël, des données que le gouvernement scrute avec inquiétude. Aurélie Herbemont.
J'espère qu'on n'aura pas un effet Noël massif. Voilà le vœu de cette ministre pour la nouvelle année. Alors que le moment de vérité approche, d'ici quelques jours, on saura avec précision si les retrouvailles familiales auront fait repartir l'épidémie. Il n'y a pas encore de flambée, mais on reste prudent, glisse-t-on au ministère de la Santé. D'autant qu'il est encore un peu tôt pour mesurer l'effet nouvel an. Un nouveau conseil de défense permettra de faire le point cette semaine, même si le gouvernement a déjà pris les devants. Les lieux culturels ne pourront pas rouvrir jeudi et l'exécutif prépare les esprits à la non-réouverture des restaurants et bars le 20 janvier prochain. Réouverture peu probable, admet le ministre des PME. Pas question de relâcher la pression pour l'instant, mais faudra-t-il des restrictions supplémentaires qui peuvent aller jusqu'au reconfinement alors que 15 départements viennent de passer au couvre-feu à 18h ? Il est trop tôt pour des nouvelles contraintes, répond un proche du Premier ministre, sauf s'il y a une explosion due aux vacances.
Aurélie Herbemont, et puis dans la série des imprudences, celle-là a fait beaucoup de bruit. La rave du Nouvel An avec 2500 personnes à Lyon près de Rennes. La garde à vue d'un organisateur présumé de cette fête sauvage a été prolongée. Il doit être présenté à un juge dans la journée. Le parquet va demander sa détention provisoire.
7h06 sur Europe 1. Dans un instant, on part aux États-Unis avec un enregistrement hallucinant de Donald Trump qui demande qu'on annule sa défaite dans l'État de Géorgie. Mais d'abord, 2021 sera-t-elle l'année du retour massif au bureau ? C'est peut-être l'une des grandes questions que vous allez entendre à la machine à café.
Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Beaucoup de salariés reprennent le travail ce matin, en entreprise, mais aussi à distance. Alors justement, Olivier, le télétravail, c'est toujours la recommandation prioritaire du gouvernement ?
Alors sur le papier, la règle est toujours celle-là. Télétravail partout où c'est possible. Mais, nous disent les DRH que nous avons interrogés, il n'y a plus la même pression qu'il y a deux mois de la part de l'administration. En sourdine désormais la petite phrase d'Elisabeth Borne, le télétravail n'est pas une option. Il faut dire que la règle recommandée à l'époque n'a jamais été véritablement respectée. Il y a des entreprises qui ont traîné les pieds, d'autres ont cherché à jouer le jeu, puis ont fini par aller dans le sens réclamé par leurs salariés. Charles Robinet-Dufault préside le groupe NR, un groupe de courtage et de services en protection sociale, 1500 salariés, dont 75% de femmes.
On a dû lutter pour faire en sorte que la présence soit inférieure à 40%, mais si on avait laissé les choses naturellement se faire sur la base du volontariat pour venir travailler sur site, on dépassait les 50% parce que les gens ont besoin de se retrouver au bureau dans leurs équipes pour travailler. Ça leur fait du bien, ça fait partie de l'équilibre en fait de leur journée et de leur semaine. On souffre finalement du manque d'échange avec un télétravail trop massif.
Donc dans certaines entreprises, on a une vraie envie de se retrouver. Comment s'explique cette aspiration, Olivier ?
Eh bien, elle s'explique par le fait que le deuxième confinement a été mal vécu par beaucoup de salariés, plus mal que le premier où le télétravail était vu comme une parenthèse nécessaire, oui, mais dont on allait sortir. Le deuxième confinement a résonné comme l'entrée dans une nouvelle phase où là, le télétravail pas véritablement choisi devient un mode durable, avec du coup une charge mentale plus forte et un sentiment de fatigue accru qui subsiste aujourd'hui. D'où l'interrogation des entreprises. Comment, en ce début d'année, faire comprendre aux salariés qu'on passe à autre chose ? Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, résume leur questionnement comme ça.
Les entreprises ont besoin de donner à leurs salariés un peu de perspective pour recréer des collectifs d'entreprise et un peu de dynamique interne. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, commencent à se préparer à avoir des axes de communication beaucoup plus transparents pour dire, ben voilà, on redémarre une année, voilà les projets de 2021 sous réserve que la crise sanitaire s'amenuise ou se temporise. C'est ça le sujet des entreprises aujourd'hui.
Alors, ce qu'il faut espérer pour que cette dynamique s'enclenche, c'est qu'il n'y ait pas de troisième confinement.
Voilà, merci beaucoup pour cet intéressant, passionnant dossier, Olivier.
Oui,
Samar.
Et que certains, enfin, je suis sûr que certains ont monté le son, voilà, en se préparant à retourner au boulot aujourd'hui, 4 janvier. Alors, toute autre chose, je voudrais à présent vous faire écouter cet enregistrement assez incroyable, hein, à 3 semaines de la fin de la présidence de Donald Trump aux États-Unis. Une conversation entre le président américain et un responsable républicain chargé des élections en Géorgie. Donald Trump lui demande carrément de changer le résultat de la présidentielle dans cet État.
Bon, écoutez, tout ce que je veux, c'est que vous trouviez 11 780 voix. Parce que nous avons gagné l'État. Brad, qu'est-ce qu'on va faire ? On a gagné l'élection et ce n'est pas juste de nous enlever la victoire comme ça. Et ça va nous coûter cher. Je crois que vous devez dire que vous allez réexaminer la situation et vous allez le faire avec des gens qui trouvent les bonnes réponses, pas avec les gens qui ne veulent pas voir ces bonnes réponses.
Ceci est le résultat d'une élection erronée. Et honnêtement, cela devrait aller très vite. Vous devriez l'annoncer dès demain parce que vous avez une grosse élection qui arrive. Et à cause de ce que vous m'avez fait, les citoyens de Géorgie ne vont pas voter comme vous voudriez qu'ils votent. Ils savent que c'est un scandale. Beaucoup de républicains ne vont pas voter comme vous le souhaitez parce qu'ils détestent ce que vous m'avez fait. Ils détestent ça.
Je veux que vous trouviez 11 780 voix. Hein, cet enregistrement, il est dévoilé par le Washington Post. Donald Trump fait aussi, d'ailleurs, allusion aux élections sénatoriales qui se tiennent demain en Géorgie.
Double élection qui va décider de la couleur politique du Sénat. Le camp démocrate espère l'emporter. Joe Biden, comme Donald Trump, arrive d'ailleurs en Géorgie aujourd'hui pour mener campagne jusqu'au dernier moment.
Et les militants démocrates ne ménagent pas leurs efforts pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Écoutez le reportage de notre correspondant Alexis Guilleux dans la banlieue sud d'Atlanta.
Robin est l'une des milliers de bénévoles du Parti démocrate de Géorgie. Elle passe de porte en porte dans cette rue pavillonnaire. Objectif, rappeler aux habitants d'aller voter mardi.
Okay, so Tuesday from 7 to 7.
Donc mardi, de 7h à 19h, vous savez où se trouve votre bureau de vote. Ça vous ne dérange pas si je vous laisse un flyer? Aller chercher les électeurs jusqu'à chez eux, c'est la stratégie adoptée par le Parti démocrate dans l'espoir d'élire 2 sénateurs supplémentaires. Alice habite dans le quartier, elle pense que de telles actions sont nécessaires.
Les publicités, les appels, les emails, tout ça c'est important. Mais le face-à-face, ça permet parfois aux gens de se rendre compte à quel point le vote c'est primordial.
Le porte-à-porte, c'est une première fois pour Robin et c'est la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle qui a tout déclenché pour elle.
Je me suis sentie pleine d'énergie. C'est si important pour moi de parler aux gens, de les inciter à voter s'ils ne l'ont pas déjà fait. Je pense que c'est le moment de tous se lever et faire notre part. Et c'était ma façon de faire la mienne.
Pour l'emporter, les démocrates espèrent une très forte participation. Elle s'annonce massive avec ce chiffre record. Plus de 3 millions de personnes ont déjà voté par anticipation. À Atlanta, Alexis Guilleux, Europe 1.
2 attaques meurtrières contre des soldats français de l'opération Barkhane au Mali. 5 morts en moins d'une semaine. Florence Parly, la ministre des Armées, reconnaît que la France va très probablement réduire ses effectifs au Sahel, comme Europe 1 vous le révélait d'ailleurs. Et elle dénonce également les méthodes pernicieuses des djihadistes. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire en 2019, la disparition et le décès d'une jeune franco-irlandaise de 15 ans, Nora Quarin, en Malaisie. Son corps avait été retrouvé dans la jungle 10 jours après sa disparition. Ce matin, le médecin légiste malaisien exclut la piste criminelle.
Le football à présent, pour terminer ce journal. Fini les vacances aussi pour les joueurs du PSG. Ils ont retrouvé hier le camp des loges.
Oui, et ils ont pu faire connaissance avec leur nouvel entraîneur, l'Argentin Mauricio Pochettino, qui compte bien les faire remonter en tête de la Ligue 1. Ils ne sont que 3e pour l'instant, derrière Lyon et Lille. Première prise de contact que nous raconte Cyril de la Morinerie.
Bonne année à vous aussi.
Marquinhos puis Kimpembe arrivent masqués au camp des loges.
Ça va les gars ?
Direction le vestiaire où une surprise les attend. Le président Nasser Al-Khelaifi est là et prend la parole aux côtés de Leonardo. Puis c'est au tour du nouvel entraîneur parisien de dire quelques mots. Mauricio Pochettino n'a pas l'intention de brusquer son équipe. Un entraînement léger est prévu, mais très vite, il faudra s'investir. Comme son mentor Marcelo Bielsa, il ne laisse rien passer et a un goût excessif du détail. Ce n'est pas pour rien qu'il fut surnommé à ses débuts le shérif. Mais ce coach charismatique sait aussi se faire apprécier, comme l'explique l'entraîneur Olivier Guégan, qui a fait un stage à ses côtés à Tottenham.
C'est quelqu'un qui arrive à fédérer, qui est très entraînant et qui arrive à maintenir son effectif global sous pression. Et on a l'air que tout le monde doit être concerné, le travail d'équipe. C'est là-dessus qui va être attendu, je pense.
Mais attention, Pochettino devra cette fois gérer un vestiaire de stars, notamment Mbappé et Neymar. Or, l'Argentin peut être clivant. Soit on est avec lui, soit contre lui. L'ancien entraîneur de Tottenham n'hésite pas à écarter ceux qui ne s'investissent pas. En revanche, si l'équipe est soudée, elle est capable de tous les exploits.
Cyril de la Morinerie, prochaine échéance pour le shérif et ses joueurs. C'est en Ligue 1 mercredi à Saint-Étienne. Et puis on a appris hier soir qu'un joueur parisien était positif au Covid. Il est à l'isolement, mais on ne sait pas qui c'est.
À suivre donc. Hélène Zélani, merci beaucoup. C'était le journal de 7h sur Europe 1.